Vous écoutez
RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Laurent Nunez.
Bonjour.
Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions ce matin. Vous êtes le préfet de police de Paris et il y a de nombreuses questions à vous poser. Vous allez dresser devant nous ce matin le premier bilan de la délinquance 2023 sur les 10 premiers mois. Nous allons revenir aussi sur la question des actes, ces fameux actes antisémites. De quoi s'agit-il? Combien d'actes? Mais qui aussi derrière ces actes? Et puis je voudrais commencer par cette libération hier du policier qui a été l'auteur du tir mortel sur Naël. Il est donc sorti de prison, il est poursuivi pour meurtre. Ça fait 4 mois et demi qu'il était à l'isolement. Ça vous inquiétait cette sortie ou est-ce que vous vous en réjouissez?
Non, j'ai pas de commentaire à faire. C'est une décision qui a été prise par un juge d'instruction. Voilà, j'en prends acte. J'ai pas aucun commentaire à faire. Évidemment, c'est un dossier que je suis avec attention. Que je rappelle, c'est un policier qui relève de la préfecture de police de Paris. Donc, c'est un de mes effectifs. Donc, voilà, j'ai pris acte de cette décision prise par un magistrat dans le cadre de l'état de droit. C'est la justice qui décide.
Vous dites que vous n'avez aucun commentaire à faire, mais par exemple, lorsqu'il y avait eu le directeur général de la police nationale cet été, qui avait souhaité publiquement la libération du policier en disant qu'avant un éventuel procès, un policier n'avait pas sa place en prison, vous aviez apporté votre soutien, vous aviez dit « je partage les propos du directeur général de la police, je suis fier d'avoir été préfet de la police des Bouches-du-Rhône, puisqu'il s'agissait à ce moment-là d'un policier de Marseille ». Vous aviez dit votre soutien, clairement.
J'avais apporté mon soutien, mais l'essentiel du message qu'on passait avec le directeur général de la police nationale, c'est le suivant, c'était de dire les policiers bénéficient aussi d'une présomption d'innocence. Il y en a marre de cette présomption de culpabilité systématiquement quand il y a usage d'armes et qu'il y a des blessés, parfois des tués, évidemment, malheureusement, et on le déplore. Et ce que nous déplorons, c'est cette présomption de culpabilité, là où il y a une présomption d'innocence qui prévaut. Les seules personnes qui peuvent juger de la régularité d'une action de police, c'est la justice française. Personne d'autre, ce ne sont pas les journalistes, ce ne sont même pas la hiérarchie policière. Moi, dans toutes ces affaires, je suis dessaisi. C'est la justice qui va rendre son verdict. Et ce qu'elle regarde, la justice, c'est la proportionnalité de l'usage de la force par les forces de l'ordre. Il n'y a que la justice qui en juge. Et ce n'est pas parce que quelqu'un est blessé, même gravement, qu'il y a forcément faute de la police. Et c'est ça le message que nous voulions
faire passer.
C'était le message que nous voulions faire passer. Donc je parle pour la généralité des cas. Dans le cas de Naël, il est évidemment décédé. Ce qui est évidemment ce que tout le monde déplore. C'est évident, tout le monde déplore. Mais le message valait d'une manière générale. Et c'était de rappeler que les policiers ne sont pas soumis à une présomption de culpabilité systématiquement, comme laisse à le penser une partie de la classe politique parfois.
Laurent Nunez, il est sorti hier soir, et Grégory Joron du syndicat SGP Police était mon invité ce matin sur RMC. Il précisait que le nouveau domicile, c'est-à-dire celui où ce policier a trouvé refuge, ne pouvant pas retourner dans son domicile d'origine parce que l'adresse avait fuité, a déjà été mis sous surveillance cette nuit.
Grégory Joron est toujours bien informé, mais vous imaginez bien évidemment que ce policier, sa famille, surtout sa famille, dès les premiers jours, ont fait l'objet de menaces extrêmement graves. Évidemment qu'ils font l'objet d'une surveillance. Évidemment, comme tous les citoyens français, quand ils sont menacés
protection.
Comme ils peuvent être. Je parle de surveillance, voilà. Je n'entrerai pas dans le détail, mais comme à chaque fois que des citoyens français font l'objet de menaces graves, ils font l'objet de protection.
Laurent Nunez, la nuit a été calme?
La nuit a été calme, oui, la nuit a été calme. On a eu ici ou là quelques escarmouches, mais nous avions déployé, et le ministre de l'Intérieur y a veillé personnellement, un dispositif policier adapté, évidemment, à d'éventuelles troubles, violences urbaines.
Ça n'a pas réveillé la couleur des émeutes
pas cette nuit, mais nous avons été extrêmement attentifs, comme nous l'a demandé le ministre de l'Intérieur.
Laurent Nunez, on est au mois de novembre, mi-novembre, et vous avez déjà les premières tendances de la délinquance depuis le début de l'année. Quelles sont-elles?
Depuis 10 mois, donc j'ai les chiffres à fin octobre, les tendances sont plutôt bonnes, les atteintes aux biens et les atteintes à l'intégrité physique des personnes baissent globalement, notamment sur les vols violences, on est à des baisses de moins de 20%. Et puis aussi, surtout, j'insiste là-dessus, parce que ça concerne beaucoup de franciliens, les violences aux personnes dans les transports baissent de manière significative, on est à moins 30%.
Donc moins 30% sur les violences aux personnes.
Dans les violences aux personnes, dans les transports, dans les vols violences également, je viens de le citer, puis d'une manière générale, les atteintes aux biens. Alors après, structurellement, vous savez que la délinquance est élevée dans toute l'agglomération parisienne, y compris d'ailleurs dans toute l'Île-de-France, donc évidemment, c'est baisse, il faut les poursuivre. Le sentiment, lui, d'insécurité, il persiste toujours, évidemment, mais il faut continuer ces actions résolues de lutte contre la délinquance en déployant des effectifs sur le terrain, en analysant les zones de criminalité pour être plus présent sur ces zones.
C'est dû à quoi ?
C'est ce que nous demande le ministre, c'est la présence policière d'abord, donc qui dissuade, et puis c'est aussi le niveau, la qualité des investigations qui sont menées. On a des taux d'élucidation, notamment en matière de cambriolage, qui augmentent significativement sur l'agglomération parisienne. Je veux en féliciter évidemment les fonctionnaires de police. Et on démantèle les équipes. Vous savez, les équipes de cambrioleurs commettent généralement plusieurs faits. Donc quand vous démantelez une équipe, c'est plusieurs cambriolages qui sont évités. Et justement, il y a deux points noirs, évidemment les cambriolages, qui continuent à être orientés à la hausse. Et puis aussi, les coups et blessures volontaires. C'est-à-dire toutes ces violences qui ne sont pas des violences dites commises pour acquérir, pour commettre des vols en réalité. Donc c'est les coups et blessures volontaires qui continuent d'augmenter.
De combien ?
Alors on est à 2-3% d'augmentation depuis le début de l'année, donc moi je me félicite que la hausse soit moindre, mais il y a toujours une hausse, et c'est la même chose pour les cambriolages, mais ces derniers mois, alors là je suis pas sur 10 mois, mais ces 3-4 derniers mois, les chiffres sont meilleurs, et on va évidemment poursuivre cette action en ciblant, et j'insiste, pour ce qui est de la capitale parisienne, qui est quand même un peu la vitrine de notre pays, en ciblant un certain nombre de territoires en particulier. Je pense au Champ de Mars, où nous déployons énormément de moyens. Et contrairement à ce qu'on peut entendre ici ou là, dans la bouche de certains élus, ou dans certains médias, vous savez, depuis le 15 juin, où nous avons renforcé le plan tourisme sur le Champ de Mars, les atteintes aux biens ont baissé de 30%,
ouais,
et les atteintes aux personnes ont baissé de 50%.
Elles étaient très très hautes, parce que la vitrine,
elles sont
quand
pas,
même.
Non, non, elles ne sont pas très très hautes, Apolline de Malherbe. Parce que l'impression que vous avez, c'est évidemment, il y a eu des faits graves qui ont été commis, notamment, je pense, un viol qui a été commis il y a trois semaines, qui a été rendu public. Et évidemment, donc on surfe toujours, on crée des polémiques sur ces faits divers très graves qui sont inacceptables. Mais je peux vous dire qu'au Champ de Mars, c'est l'endroit de Paris où je déploie le plus de policiers.
Un mot sur la question du crack. Ça faisait partie aussi de vos missions. Lorsque vous avez été nommé préfet de police de Paris, Laurent Nunez, il y a toujours 100 à 150 consommateurs de crack qui errent au nord de la capitale, qui inquiètent les habitants. Ça ne s'arrêtera donc jamais.
D'abord, il n'y a plus de camps. Il n'y a plus de camps de consommation à ciel ouvert. Il a été démantelé en octobre 2022, comme me l'a demandé le ministre. Donc il n'y a plus de camp, qui était un endroit où il y avait parfois jusqu'à 500-600 personnes réunies, y compris la nuit, et où les vendeurs venaient vendre leur drogue de la mort, parce que le crack c'est une drogue très, très addictive, donc il n'y en a plus. Ensuite, on a une action judiciaire qui est menée de manière résolue. On interpelle énormément de vendeurs, le trafic de crack c'est un petit trafic, ce sont des personnes qui transforment de la cocaïne en crack, donc on a interpellé énormément de vendeurs, qui sont d'ailleurs souvent en situation irrégulière, donc qui sont généralement condamnés à des... Je veux saluer l'action du parquet de Paris qui nous accompagne. Et donc nous avons poursuivi cette action et il reste effectivement des consommateurs qui, le chiffre que vous avez donné tout à fait exact, et qui, dans le nord-est parisien, se déplacent d'une zone à l'autre. Pour les vendeurs, c'est plus compliqué parce qu'ils ont du mal à les retrouver. Mais le problème résiduel du crack, c'est plus un problème de police. Moi, je vais continuer l'action que je mène de présence policière, de dispersion, d'interpellation des vendeurs. Mais c'est le problème qui reste résiduel, c'est un problème maintenant de prise en compte sanitaire et sociale. Et évidemment, en tant que chef des policiers parisiens et de l'agglomération, j'attends maintenant que ce dispositif monte en puissance.
Vous ne pouvez plus rien faire, quoi, pour eux.
Mais si, on va continuer à faire ce qu'on fait. Vous savez, regardez, je suis allé à une réunion publique dans le secteur Rosa Park où il y avait énormément de consommateurs de crack qui erraient sur place et qui pouvaient avoir une attitude, un comportement agressif.
C'est dans le nord de Paris.
Et nous sommes toujours présents sur le terrain pour disperser, interpeller. Et nous allons évidemment continuer cette action.
Mais cette
frange résiduelle de consommateurs, moi je ne sais pas la réduire. Ce sont des gens, moi mes policiers, comme je le dis souvent, je me répète, mes policiers ne sont pas des médecins. Et moi je ne demande pas aux médecins d'aller interpeller des trafiquants dessus. Donc voilà, maintenant il faut que chacun fasse sa part du travail.
Et sa part du travail, c'est quoi ? C'est le ministère de la Santé ? C'est la mairie de Paris ?
C'est la santé, c'est les élus. Mais tout ça est en route. Mais peut-être que nous n'avançons pas au même rythme. Voilà.
Vous avez l'impression que vous avez pris votre part avec le ministre, mais que maintenant
Le ministre de l'Intérieur, nous souhaitons qu'il y ait une montée en puissance dispositif de prise en charge sanitaire.
Mais qu'est-ce que vous pouvez dire aux riverains ? Vous savez pas donc quand est-ce
que les riverains, je les rencontre et je leur dis, ils savent que la police est présente. Et vous savez, quand vous lisez bien ce que disent les riverains sur ce secteur, ils ne mettent jamais en cause l'action de la police. Rarement, rarement. Et quand on les rencontre, on leur rappelle tous les efforts que nous faisons. Ils le voient concrètement. Maintenant, je partage leurs préoccupations et leurs diagnostics. Tous les riverains, toutes les associations, les collectifs vous disent, il faut qu'on monte en charge sur le sanitaire et sociale et la prise en compte médicale.
Laurent Nunez, vous êtes préfet de police de Paris. C'est à Paris que le nombre d'actes antisémites est le plus important par rapport au reste du territoire français. Vous le savez, j'ai reçu il y a deux jours l'imam de la mosquée de Paris qui demandait à voir les actes antisémites au-delà du chiffre. Et au fond, si on le prend au mot, quels sont ces actes? Combien aujourd'hui? Qu'est-ce que ça représente? Qui les commet? Est-ce que ce sont des signalements? Est-ce que ce sont des actes? Est-ce que ce sont des plaintes? Je voudrais qu'on prenne le temps ensemble de comprendre de quoi il s'agit. D'abord le chiffre, le tout dernier chiffre, combien d'actes?
Alors moi sur la d'abord sur les propos de l'imam, j'ai noté qu'il s'était excusé.
Il s'est excusé le soir même.
Le recteur de la grande mosquée, j'ai écouté avec attention le ministre de l'Intérieur ce matin. Il semblerait que le recteur ait dit qu'il n'était même pas imam de cette mosquée. Il s'est excusé.
Il n'est plus imam de la grande mosquée.
Le recteur de la grande mosquée c'est clairement démarqué de ses propos. Donc évidemment, on prend ça avec beaucoup de satisfaction parce que ce sont des propos qui étaient choquants parce qu'ils laissaient à entendre que finalement, la vague d'antisémitisme que nous subissons actuellement semblait être remise en cause, ce qui n'est pas le cas.
Je vous
évidemment.
Repose quand même la question. Vous nous dites aujourd'hui, parce que vous êtes quand même préfet de police de Paris, la grande mosquée de Paris, il ne peut plus prétendre être imam de la grande mosquée.
Non, c'est pas du tout ce que j'ai dit. C'est pas du tout ce que je vous dis. Voilà, je note que cette personne est revenue sur les propos, s'est excusée, dont acte.
D'accord, mais
c'est
le recteur.
Mais monsieur le recteur de la grande mosquée de Paris, lui aussi, s'est clairement détaché, démarqué par rapport à ce qui a été dit.
Les actes
antisémites, donc sur l'agglomération parisienne, sur le Paris et les trois départements de Petite Couronne, au moment où on se parle, donc hier soir, c'était 375 actes antisémites, qui ont des formes diverses et variées. Le ministre a donné une répartition qui est exactement la même que nous avons sur Paris.
375 depuis le 7 octobre.
Depuis le 7 octobre. Il faut que vos téléspectateurs, auditeurs, en comprennent bien que on explose les chiffres d'une année normale. Et c'est même depuis le 7 octobre déjà beaucoup plus qu'une année normale. Bon, donc c'est quand même une vague qui est indéniable et qui est très importante, avec la même proportion de ce que l'on rencontre sur le territoire national, c'est-à-dire on a évidemment des tags, des menaces, des insultes, c'est les trois quarts de ces actes antisémites, et puis parfois on a des faits aussi plus graves, on a des coups et blessures volontaires, des dégradations de biens, mais qui vont au-delà du tag et de la position de banderole et autres, donc voilà, on a aussi des faits très graves, on a eu aussi des agressions.
D'abord, je voudrais savoir, qu'est-ce que vous appelez acte? Comment vous déterminez ce chiffre? C'est-à-dire, est-ce que ce sont des signalements qui vous ont été faits? Est-ce que ce sont des actes qui ont été constatés par la police? Est-ce que ce sont des plaintes? Comment vous établissez cette liste?
Vous avez raison de poser cette question. D'abord, un tag qui est antisémite, c'est très grave. Donc, il faut jamais relativiser la forme que prend l'atteinte. Nous, on ne la relativise jamais. Évidemment, les coups et blessures, c'est plus grave. Vous portez atteinte à l'intégrité physique d'une personne, mais un tag en soi, évidemment, c'est très grave. Alors, il y a plusieurs façons de le détecter. C'est que d'abord, il y a ce qu'on constate, ce que les policiers peuvent constater, et puis il y a les plaintes qui sont déposées. Et nous, on souhaite que systématiquement il y ait des plaintes. Moi, sur 375 actes antisémites, je n'ai que 180 plaintes. Donc j'aimerais en avoir plus, parce que ça nous permet de lancer évidemment des investigations. Mais comme nous l'a demandé le ministre de l'Intérieur, de toute façon on le fait. Dès qu'on constate
qu'il y a eu un acte... Même s'il n'y a pas de plainte à proprement parler, vous vous emparez de la question.
Exactement, ou je dépose plainte moi-même. Comme ça a été fait pour ces jeunes qui, sur la ligne 3 du métro, ont chanté et tenu des propos clairement antisémites.
On va y revenir sur ces jeunes parce que des interpellations ont eu lieu, mais je voudrais vraiment comprendre de quoi on parle. Donc, on a bien compris que quand vous nous parlez d'actes, il ne s'agit pas forcément formellement de plaintes.
Pas forcément, effectivement.
Et elles vous sont signalées, ces actes vous sont signalés par tout un chacun. Ce ne sont pas forcément des constats de policiers eux-mêmes.
Ça peut être des constats de policiers, ça peut être des signalements, donc des appels police 17 parce qu'on a constaté sur tel bâtiment public un tag. Voilà. Et pour les faits les plus graves, évidemment, il y a toujours des plaintes. Il y a toujours des plaintes. Et puis ça peut être aussi, j'insiste, des détections qui sont faites sur les réseaux sociaux. Donc on a la plateforme Pharos. Il y a aussi des personnes qui sur Internet constatent des propos qui sont des propos d'apologie, des propos de haine des juifs, et qui vont à ce moment-là faire un signalement à Pharos qui est transmis à la justice, et la justice ensuite saisit un service de police compétent, et quand c'est dans ma zone de compétence, ce sont mes services qui sont saisis.
Les auteurs, comme ces interpellations, mais encore un mot, vous avez dit que vous regrettiez qu'il n'y ait pas une plainte pour un acte. Qu'est-ce qui fait que les plaintes ne sont parfois pas déposées? Est-ce que ça veut dire que c'est une crainte peut-être de déposer plainte? Est-ce que c'est le sentiment que finalement, bon ben voilà, c'est comme ça, une forme de se disant il n'y a rien à faire? Qu'est-ce qui motive la non-plainte?
Mais je ne sais pas. Je sais qu'il faut porter plainte. C'est vrai que parfois, j'ose espérer que ce n'est pas la crainte. Hein, j'ose espérer que ce n'est pas la crainte, puisque la police est là pour protéger, pour mener des investigations. Voilà, moi, je déplore ce décalage. Après, très honnêtement, Pauline de Malherbe, quand c'est un tag qui est apposé sur un bâtiment public, voilà, la plainte tarde parfois à venir. C'est à ce moment-là au propriétaire de ce bâtiment, à la personne en charge de gestion, de déposer plainte.
Puisque vous parlez des tags, il y a un certain nombre de tags, ces fameuses étoiles juives au pochoir bleu qui avaient été apposées. On s'est rendu compte depuis que c'était un commanditaire moldave, russe, enfin probablement l'influence étrangère. Est-ce que ça compte dans les 375 actes?
Ah oui, non, mais bien sûr. Mais attention, là vous êtes sur c'est un fait. Il ne faut pas relativiser, il ne faut pas s'imaginer que parce qu'on a eu énormément, on a eu plusieurs dizaines d'étoiles qui ont été apposées dans Paris en petite couronne. Pas s'imaginer que ça épuise mes 375 faits. Donc on est sur un fait. On est sur on a eu deux séries d'actions. Une qui a été menée par un premier couple qui a été interpellé, qui a été placé en garde à vue, puis qui a été reconduit. Nous avons reconduit dans
ils
leur pays.
Ils ne sont plus sur le territoire français.
Ils ne sont plus sur le territoire français. Ils ont été reconduits. Ils ont été reconduits le 10 novembre dernier.
D'accord.
Et puis nous avons documenté qu'il y a un deuxième couple qui a agi et donc qui a apposé un certain nombre d'étoiles. Et on a deux actes antisémite.
Donc ça fait pas 200 étoiles,
non,
donc 200, il n'y en aurait plus que 175.
Non,
ok, les choses sont très précises.
Et ce que je veux saluer, et j'en profite pour dire, la plainte, ça veut dire, et le ministre de l'Intérieur nous le demande, des investigations judiciaires renforcées qui sont menées. Je peux vous dire que pour toutes les affaires qui ont été médiatisées ces temps derniers, les jeunes dans le métro, l'affaire des étoiles de David apposées avec des pochoirs, l'affaire de l'influenceuse, je peux vous dire que pour tous ces dossiers, nous avons mis le paquet en termes d'investigations judiciaires. Vraiment. Et nous avons retrouvé les auteurs dans un temps record.
Laurent Nunez, vous avez parlé d'agression. De quoi s'agit-il ?
Des coups et blessures volontaires, on en a eu. On a eu des personnes dont il apparaissait de manière ostensible qu'elles étaient de confession juive. Ici, le port d'une kippa, là, un tatouage sur un bras, qui ont pu, avec une étoile de David, qui ont pu faire l'objet de coups et blessures volontaires. Vous savez, vous avez l'exemple de ce rabbin qui a été agressé dans le métro par un jeune homme qui a été retrouvé, qui a été interpellé, qui a été placé en garde à vue. Un jeune homme de très, très jeune âge.
Quel âge ?
Une quinzaine d'années. Et donc, nous avons retrouvé cet individu, là encore, en un temps record, grâce aux investissements menée par mes services et en l'occurrence par la police régionale des transports.
Laurent Nunez, l'âge des auteurs
L'âge est variable. On a des très jeunes auteurs et on peut avoir parfois des personnes qui sont plus âgées, qui ont 40, 50 ans et qui sont parfois ancrées dans la défense de la cause palestinienne, mais vu d'un point de vue très radical. Ce sont des gens qui sont très radicalisés. Je ne stigmatise pas ceux qui défendent la cause palestinienne, bien évidemment,
mais c'est l'un des moteurs.
On peut avoir des auteurs qui sont engagés, qui sont dans l'engagement politique de soutien à la cause palestinienne, mais de manière extrêmement radicale, puisqu'ils basculent, ils franchissent la ligne rouge et tombent sous le coup de la loi pénale. Vous savez, dans les actes antisémites, on a aussi tous ces slogans qu'on a pu observer sur des manifestations et qui étaient des slogans qui comparaient Israël au nazisme ou qui parfois comparaient des faits, par exemple la Shoah avec ce qui se pouvait se passer
Laurent
actuellement en Palestine.
375 actes, combien d'interpellations, combien de condamnations ?
Alors, sur les interpellations, c'est 130. Donc, évidemment, nous avons 130 interpellations. Alors, je n'ai pas le détail des condamnations, c'est l'affaire de la justice. Moi, mon travail, c'est de faire en sorte que les policiers, sous le contrôle des parquets, retrouvent très vite les auteurs. Et quand. En général, c'est fait très rapidement. Et vraiment, ce sont vraiment des sujets que nous prenons très au sérieux. Mais comme toutes les atteintes, je veux bien dire ça,
c'est. Et justement, toutes les atteintes, il y en a d'autres. Il y a des atteintes contre les chrétiens, il y a des atteintes contre les musulmans récemment.
Oui, il y a des actes anti-musulmans, mais il y en a moins en ce moment. Voilà, nous les traitons avec le même sérieux, nous déployons les mêmes moyens.
Mais ce n'est pas dans les mêmes proportions. Il y a une explosion du nombre d'actes anti-musulmans ou anti-chrétiens.
Nous protégeons les lieux de culte. Nous protégeons aussi les lieux de culte musulmans les vendredis. On a eu l'occasion, le ministre s'est rendu à la Grande Mosquée de Paris pour le 11 novembre. Il a eu l'occasion de le rappeler. Nous sommes présents les vendredis aux entrées-sorties des mosquées. Et nous, la République française, c'est ça. Nous protégeons tous les cultes. Il ne faut pas laisser à penser qu'en ce moment, il y aurait une préférence, finalement, pour la communauté juive. Non, il n'y a pas de préférence. Il y a une vague d'antisémitisme qu'il nous faut enrayer, endiguer, qui n'est pas normale. Et on ne peut pas la nier. C'est une réalité. Et moi, je ne vous cache pas que moi, dès que je me lève le matin, mon premier réflexe, c'est de regarder la synthèse du jour sur les actes antisémites qui ont été commis la veille. Évidemment, ils me sont rapportés tous en temps réel, mais tous les matins, j'ai la synthèse et elle est assez effrayante en ce moment. Elle est assez effrayante et ça, personne ne peut le nier. Personne n'a le droit de le nier.
Laurent Nunez, vous avez évoqué certains militants radicalisés de la cause palestinienne et des slogans. Il y a une manifestation à nouveau prévue samedi. Est-ce qu'elle sera autorisée ?
Elle ne sera pas interdite. Elle ne sera pas interdite. Vous savez, on gère ces manifestations au cas par cas. C'est du cas par cas. C'est-à-dire qu'on regarde le contenu de l'appel à manifester, la qualité des déclarants, qui sont-ils pour se prononcer. J'applique, moi, les instructions du ministre de l'Intérieur et la jurisprudence du Conseil d'État. Donc, effectivement, je n'interdirai pas la manifestation de samedi prochain, qui est déclarée notamment par des partis politiques, dont la France est insoumise, un certain nombre d'organisations syndicales, un certain nombre de collectifs de soutien de la cause palestinienne, avec des messages qui sont des messages d'appel au cessez-le-feu, d'appel à la paix, qui ont su condamner ce qui s'était passé le 7 octobre. Après, il y a le verbatim qui n'est pas forcément celui que moi j'emploie. Moi, pour moi, c'est un acte de terrorisme. On parle de crimes de guerre. Bon, ces manifestations ne sont pas interdites. Mais ça ne veut pas dire que je n'interdis pas d'autres manifestations. Vous savez, le week-end dernier, ça n'a pas fait énormément de bruit, mais le dimanche, j'ai interdit une manifestation du NPA. Il y a eu une manifestation samedi déclarée par la France Insoumise et certains syndicats. Et j'ai interdit dimanche une manifestation du NPA dont je considérais qu'elle risquait de provoquer des troubles à l'ordre public. Et ce week-end, il y a une nouvelle manifestation samedi. Moi, je suis en contact avec les députés de la France Insoumise qui prennent l'appel de m'appeler, de m'expliquer comment va se dérouler la manif, l'itinéraire. Cette manif aura lieu. Par contre, dimanche, une manifestation qui est déclarée sur un parcours qui ne me convient pas, avec une déclaration qui appelle clairement au soutien de la résistance palestinienne, de la résistance palestinienne, qui ne condamne en rien ce qui a pu se passer le 7 octobre, qui est déposée par une structure de soutien de la cause pro-palestinienne dont je considère qu'elle est radicale. Et donc cette manifestation, oui, je l'interdirai.
Celle-là sera interdite. Laurent Nunez, préfet de police de Paris, merci d'avoir répondu à mes questions.